Salut à tous, c'est Willem, donc je vais être en train de traduire un épisode spécial pour les voix d'Altarid. Je pense que ce sera Julien qui va le publier, enfin je vais lui envoyer l'audio. J'ai interviewé John Wick, un créateur de jeux de rôle, pour mon podcast et en anglais. On a discuté du fait que je le traduise pour les gens qui ne comprennent pas l'anglais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le traduire à la volée. En fait, je suis en train d'écouter à l'oreillette l'interview que j'ai fait avec lui et je vais tenter de le traduire complètement. Donc il y avait Julien avec moi pendant l'épisode. Je vais faire un peu toutes les voix et je vais le faire à la volée, donc on va voir ce que ça donne. Donc John Wick, créateur des légendes des 5 anneaux et les secrets de la 7e mer, et il a écrit pas mal d'autres bouquins depuis Houses of the Blooded. On parle de ses inspirations, on parle des jeux qu'il a écrit, on parle de pas mal de choses. John, merci de m'avoir rejoint. Donc c'est le podcast Ice Cream for Everyone. Et Julien nous rejoint aussi. Donc Julien a un podcast en français auquel je participe. Julien, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, Julien, je suis un enseignant et j'écoute beaucoup de podcasts en français. Je suis bien intéressé aux podcasts. J'écoute en anglais et en français. C'est un honneur d'être là pour moi. Parce que quand je pense aux designers, aux concepteurs de jeux vidéo que j'admire et que j'aime, et moi, rencontrer John, c'est comme de rencontrer Gary Gygax. Donc c'est très 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 sympa. C'est vraiment un compliment, je te remercie beaucoup. Donc, on va recommencer par une question pour se réchauffer un peu. J'ai écouté pas mal de tes entretiens, de tes interviews, et bon, je sais que c'est une question qui revient quand même, mais il y a un film homonyme de ton nom, évidemment, qui est sorti l'année dernière, hein, le film d'action John Wick. Oui, c'est biographique, hein, entièrement, c'est authentique. Ils ont juste changé quelques détails. C'était des gangsters de Lituanie, en fait, à la base. Et le chien n'était pas le même, un corgi. Mais sinon, à part ça, tous les détails sont vrais. Hein. C'est absolument véridique. Il y a un truc que je pensais était intéressant. Enfin, il y a beaucoup de choses intéressantes, mais quand je me préparais pour cet entretien, quand je lisais des entretiens, et j'étais en train d'essayer de chercher d'autres interviews et ton site, etc., le truc, dès que je cherche sur Google, tout ce qui tombait, c'était Keanu Reeves, chaque fois, quoi. Donc je me demandais si... Est-ce que le film qui est sorti avec ton nom a changé le nombre de visiteurs à ton site? Est-ce que ça a eu un impact, en fait, de ce côté-là? Non, je pense pas que j'ai remarqué, en tout cas. Enfin, peut-être, mais si ça a eu une différence, si ça a eu un impact, c'était pas signifiant, en fait. Significatif. Mais c'était rigolo, hein, d'avoir le film qui sorte avec mon nom, hein. Il y a eu pas mal de memes ou de blagues à mon nom et avec des potes, et c'était assez rigolo, quoi. Je m'appelle John Wick, donc... Très très brièvement, j'étais en discussion avec quelques personnes pour faire une version de jeu de rôle. Parce que je pense que John Wick écrit un jeu de rôle John Wick sur le film John Wick, ce serait au-delà de méta et ce serait trop rigolo, quoi. Mais bon, ils ont vendu tous les droits à quelqu'un d'autre, donc ça n'a pas duré très longtemps. Si le film n'avait pas marché, je les aurais eu les trucs. Le film était un succès, donc j'ai pas eu les droits, ils ont vendu tous les droits. J'allais te demander, ouais, parce que j'avais entendu dans un autre entretien, interview, que tu étais en train de parler de ça, de peut-être écrire le jeu de rôle. Je sais qu'ils sont en train de faire une suite, oui, ils font une suite. Mais je pense que ce sera chouette. Le film était super rigolo, j'ai beaucoup aimé le film. Hein. C'était un film d'action très intelligent, c'était très rigolo. J'étais particulièrement impressionné par le montage et la cinématographie des scènes d'action en particulier. C'était vraiment impressionnant. Vous pouvez vraiment y voir que c'était réalisé par des coordinateurs, des chorégraphes de combat. Tout le monde a bossé vraiment très dur sur les chorégraphies de combat et les scènes de combat. Ils voulaient vraiment montrer le boulot qui a été fait là-dedans, quoi. Donc, moi, j'ai énormément apprécié, ça m'a vraiment plu. Les scènes d'action étaient vraiment un plaisir à regarder. Enfin, c'était des longues scènes filmées correctement et de regarder les mecs comment ils fonctionnaient. Ils ont vraiment travaillé dur là-dessus. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié le film. Moi, ça m'a plu de le regarder. J'ai vraiment trouvé ça rigolo en tant que film d'action. Par contre, je connais pas suffisamment en termes de chorégraphie de combat pour dire comment est-ce qu'on a été filmés. J'ai pas ce genre de distinction, j'avoue. Bah, moi, j'ai passé 20 ans à Los Angeles, hein, donc, et j'ai essayé vraiment, vraiment dur d'être, de bosser dans le monde du cinéma, de bosser, mais, je dis sans honte, hein, c'est vraiment, vraiment dur, quoi, de rentrer dans ce monde-là, hein, donc. Ça a voulu dire aussi, bah, je suis tombé amoureux des films, quoi. Quand j'étais à Los Angeles, je vivais à Santa Monica, juste à côté de trois petits cinémas d'art et d'essai indépendants, donc je pouvais aller voir plein de films différents, quoi. Je pouvais aller voir les gros blockbusters, et je pouvais voir les petits films, genre les frères Cohen, Kung Fu Soccer, comment s'appelait ce film-là, de Stephen Chow. Ouais, Stephen Chow. Shaolin Soccer, voilà. Ouais, donc je pouvais aller voir ce genre de trucs, et des films étrangers. Oui, Shaolin Soccer. Tout ça, c'était à côté, quoi, juste à quelques pas. Je suis vraiment tombé amoureux des films, j'ai écrit énormément de scénarios. Vraiment, ça a énormément joué au moment où comment on a fait Les Secrets de la Septième Mer pour essayer de faire un jeu de rôle cinématique comme ça. Mais bon. Bah ouais, j'adore les films. J'ai une grosse collection là à côté. Et une collection de scripts aussi, de scénarios. Ouais, ouais, j'en ai pas mal. Enfin bon, j'avoue, la plupart sont mauvais, hein. Il faut en écrire plein de mauvais pour arriver au bon, quoi. Non, ils sont vraiment mauvais. C'était un truc que je sais que tu as mentionné et que j'ai entendu, hein, et qui a participé à pas mal de... Tu as écrit pour des journaux, des magazines, non? C'est ça? Ouais, à partir du lycée, de l'université. Oui, oui, j'ai écrit beaucoup pour le journal de l'université. Et des petites pièces de un acte, peut-être un, deux ou trois personnages, pas mal de dialogues. J'ai écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup quand j'étais à l'université, quand j'étais à la fac, écrire pour le journal de la fac. Ensuite, quand j'ai déménagé à Los Angeles, j'ai écrit pour Chalice Magazine professionnellement. Donc ça, c'était la meilleure formation que je puisse avoir en tant qu'écrivain, quoi, parce que t'as un temps limité. Il faut que t'écrives des trucs que tu t'en fous, t'en as rien à foutre. Et il faut y aller, quoi. Enfin, il faut écrire. 90% d'écrire, c'est du boulot. Et la plupart des gens ont... Ah oui, oui, je suis en train de réfléchir à 5 romans, j'en ai fini aucun. C'est parce que t'as arrêté au moment où le boulot commence, quoi. Quand l'enthousiasme a disparu. Et à ce moment-là, c'est du travail, quoi. C'est du travail de continuer et d'écrire pour le magazine, pour un journal, et pour un magazine mensuel avec des dates limites. Hein. Et écrire, il fallait que j'écrive avec 4 pseudos différents parce que, comme si, pour que ce soit pas mon nom qui apparaisse à côté de tous les articles, en fait, c'était un des meilleurs entraînements et une des meilleures formations que j'ai eues en tant qu'écrivain. Hein. Je viens de lire, et on est dans le mois national d'écriture de romans en NaNoWriMo en ce moment. Donc c'est un challenge d'écriture, hein, donc pour les gens qui connaissent pas, pour expliquer, il faut écrire 50 000 mots d'un nouveau roman entre le 1er et le 30 novembre. Neil Gaiman vient d'écrire un mot d'encouragement pour les gens qui participent au mois de novembre, là. Et là, on est à la moitié du mois, à peu près, et là, le contenu de son message, c'est vraiment pour dire, on est à la moitié du truc, là, c'est là que l'effort commence, c'est là qu'il faut mettre un mot après l'autre, comme un pas après l'autre, quoi. Oui, 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 j'avais vu un tableau une fois. Donc c'était le processus créatif en 7 points. Le premier, c'est genre, ouais, c'est génial. Le deuxième, c'est, la moitié, ça va pas être évident. Et puis la troisième partie, c'est, ouais, c'est pas génial. Et la quatrième, c'est, oh non, c'est de la merde. Et la cinquième, c'est, je suis nul. La sixième, c'est, ah, ça va peut-être pas évident. Et 7, tu reviens, ça, c'est génial. Et ça, c'est vraiment la deuxième partie, là. Vraiment, la deuxième partie, C'est là où les gens s'arrêtent, en fait. Parce que c'est là où le travail, le boulot commence. Et les gens sont distraits par un autre truc. Ah, bah tiens, je vais commencer sur cet autre truc. Parce que, en fait, c'est ça qui est enthousiasmant, la suite. Et ensuite, 5000 mots, et, hein, ils s'arrêtent. Et puis, il y a cet autre truc, là, qui est super excitant, maintenant. Enfin, moi, d'ailleurs, il faut que j'arrive à traverser ce propre truc moi-même. Hein. J'ai fait NaNoWriMo l'année dernière, j'ai fait les 50 000 mots, j'ai ce premier jet tout laid, quoi, qui marche pas, qui est pourri. Mais je l'ai mis de côté pendant très longtemps, j'ai eu du mal à me relire. Et je l'ai laissé pendant des mois de côté, quoi. Donc j'ai recommencé à travailler dessus tout doucement, mais enfin, ouais, j'en suis toujours à ce point-là. Enfin, j'aime bien l'analogie de la malle, la grosse malle, ou un coffre. Donc, t'achètes une grosse malle, ok? Une grosse boîte, coffre. C'est aussi grand que ton lit, imagine, d'accord? Enfin, devant ton lit. Tu commences à écrire. Tout ce que t'écris, tu le mets dans la malle. Tu continues à le mettre dans la malle, tout ce que t'écris. Et tous les jours t'écris. Tous les jours t'écris. C'est pas grave si c'est bien, pas bien, c'est nul. Tu le mets dans la malle, tu le mets dans la malle, tu le mets dans la malle. Et quand la malle est pleine, tu prends la malle, tu l'emmènes au vide ordure, à l'eau ordure, tu balances tout à la poubelle. Et donc maintenant, toute ta mauvaise écriture est sortie de ton système, tu peux commencer à bosser sur les bons trucs. C'est l'idée. Ok, moi j'aime bien. Bon, il y a un autre truc dont je voulais parler, puisque la plupart des gens qui écoutent, hein, j'imagine, la plupart des gens qui écoutent ce podcast ne connaissent pas beaucoup les jeux de rôle. Donc je voudrais qu'on explique quand même ce qu'on est en train de raconter, ce que c'est. Et puis, bah, pour les gens qui ne connaissent pas les jeux de rôle, comment est-ce que toi tu définis, comment est-ce que tu décris les jeux de rôle, comment est-ce que tu en parles? Il y a un autre truc, parce que quand moi je dis que je joue au jeu de rôle, pour les gens qui ne connaissent pas, très vite je dis ouais, bon, tu sais, Donjons et Dragons, quoi. Mais en fait, je joue jamais à Donjons et Dragons, donc ouais, je pense que, et c'est le truc par défaut, ouais. C'est le jeu le plus connu, c'est la grosse marque, c'est ce qu'on associe, ce que tout le monde associe avec le jeu de rôle. Ouais, donc, est-ce que toi, tu utilises une référence, et comment est-ce que toi, t'expliques aux gens que tu joues au jeu de rôle? J'essaye d'éviter la référence dans le jeu de rôle. Franchement, j'essaye. Déjà, j'aime pas D&D. Donc, j'ai pas envie qu'on m'associe avec Donjons et Dragons, quoi, de manière générale. Ensuite, bah, écoute, bah, généralement, je dis que je fais des jeux à raconter des histoires. Des jeux à raconter des histoires coopératifs. Au lieu que ce soit une personne qui raconte une histoire à plein de gens, c'est plein de gens, enfin, plusieurs personnes qui se racontent l'histoire ensemble. Et je pense que c'est un portrait plus correct du genre de jeu que j'écris, hein, déjà. Mais moi, je pense que mes jeux ne sont pas comme D&D, c'est pas correct, enfin, c'est pas exact. Je pense que mes jeux sont plus à propos de la narration, quoi. À propos de dire l'histoire et de raconter l'histoire de héros, plutôt que de déplacer des figurines et de voler et tuer des gens pour que je puisse prendre leurs trucs, quoi. Ouais, d'ailleurs, c'est la manière dont moi je joue aussi, hein, depuis longtemps. Donc c'est pas très très surprenant que j'aime tes jeux, hein, je veux dire. Je pense que je pense aux choses de manière similaire en termes de jeux de rôle. Enfin, je veux dire, c'est ce qui fait la différence entre les jeux de plateau et les jeux de rôle, hein. Bah, d'ailleurs, ça va être ma prochaine question. Tu vois? Alors ensuite, pour toi, quelle est la différence en termes de conception, en termes de design, pour designer un jeu de plateau et un jeu de rôle? Est-ce que tu penses d'abord au jeu, ou est-ce que tu penses à un genre ou une idée d'abord, ou... j'ai écrit un essai pour dire les échecs ne sont pas un jeu de rôle, qui a attiré énormément de discussions sur mon blog. Il y a beaucoup de gens qui ont lu au propos du truc, mais qui n'ont pas lu le truc au complet. La question que je pose, que j'ai pas de réponse, hein, c'est un questionnement, hein. Comment est-ce qu'un jeu de rôle n'est pas un jeu de plateau? Ah, pour moi, c'est assez clair que les échecs ne sont pas un jeu de rôle. Mais on peut faire des échecs un jeu de rôle. Si on donne aux pièces des modifications, des rôles, des noms, on peut le transformer en jeu de rôle. Mais ça ne veut pas dire que les échecs sont un jeu de rôle. On en fait un jeu de rôle. Donc en rajoutant des motivations, par exemple, aux pièces, ça a l'air d'être un des éléments clés. Ça a l'air. Donc dans ce cas-là, le but du jeu de rôle, enfin en tout cas le but d'un jeu de rôle n'est pas de gagner, hein, d'accord ? La condition de victoire d'un jeu de rôle, c'est, moi je pense, de dire une belle histoire, une histoire satisfaisante. Donc l'élément crucial qui définit et qui distingue un jeu de rôle d'un jeu de plateau, pour moi, il y a des jeux de rôle qui sont des jeux de plateau, et il y a d'autres jeux de rôle qu'on appelle des jeux de rôle, mais c'est juste des jeux de plateau qu'on utilise pour faire du jeu de rôle. Bon, par exemple, les premières 4 éditions de Donjons et Dragons qualifient, je pense. Moi, je pense qu'il n'y a rien dans ce jeu qui le distingue d'un jeu de plateau. Rien, rien du tout, quoi. Les gens l'utilisent pour faire du roleplay. De la même manière que les gens peuvent utiliser les échecs pour le transformer en jeu de rôle, en rajoutant des éléments qui ne sont pas forcément expliqués dans les règles. Donc, par exemple, un jeu comme le jeu raconter des histoires Baron Munchausen, qui est d'ailleurs par James Wallis. James Wallis, je vais lui parler la semaine prochaine pour mon podcast. Oui, oui, il est super, James. Enfin, donc, Baron Munchausen, on peut pas y jouer comme un jeu de rôle. C'est pas un jeu de rôle. Mais on joue un rôle. Donc il y a d'autres jeux qui sont similaires comme ça. L'élément clé d'un jeu de rôle, pour moi, ça doit être un jeu où les joueurs prennent des décisions, font des choix basés sur les motivations de leur personnage. D'accord ? Ok. Bon. Alors, pourquoi est-ce que ce ne serait pas les échecs ? Donc, dans l'article, je me répète, hein, dedans, je ne suis pas sûr, hein, c'est un questionnement, vraiment, c'est une interrogation. J'aimerais bien continuer à avoir des discussions, mais je pense que c'est assez clair, en tout cas pour moi, que les jeux qui n'adressent pas, qui ne parlent pas de ce truc-clé, manque et rate l'aspect essentiel d'un jeu de rôle. Donc voilà, c'était ça le sujet en fait. D'ailleurs, moi je l'ai lu, hein, l'article, j'ai beaucoup apprécié, parce que c'était un questionnement sur la nature de ce que c'est qu'un jeu de rôle, et ça c'est très intéressant. Donc pourquoi est-ce que c'est amusant, et pourquoi est-ce qu'on prend du plaisir à incarner, à interpréter des personnages différents? L'année dernière, j'étais en train de jouer à un jeu de plateau qui s'appelle Trahison sur la maison sur la colline. Et c'est un super jeu, ouais, très très bon jeu. Et pour ceux qui connaissent pas, tu joues dans le jeu, tu joues un groupe de gens qui enquêtent dans la maison au-dessus de la colline. Et la conception de la maison est différente à chaque fois parce que c'est des carrés en fait. Et mon ami Sarah a dit, c'est un super jeu. En plus, on peut faire du roleplay dedans. Ah bon ? Je me suis dit, ah bon ? Elle me dit, bah oui, regarde, t'as genre des personnages, t'as les petites figurines, la description, et tu peux jouer comme mieux. Et elle m'a raconté l'histoire qu'elle a joué une fois avec sa mère, et qu'elle a décidé de jouer ce personnage, cette figurine, et de l'interpréter avec un accent du sud des États-Unis, et c'était juste pour jouer un rôle autour de la table, quoi. Ça avait rien à voir avec les règles du jeu de plateau, en fait, hein, mais ça, c'était un élément rajouté. Ouais. Pour plus de fun, quoi, ouais, carrément. Un de mes jeux de plateau préférés, hein, d'ailleurs. Peut-être mon jeu de plateau préféré, c'est Diplomatie. Déjà, je suis nul au dé. Je suis nul, hein, j'ai le même problème. Ouais. Le mec, à la fin, qui a pas de bol, quoi, mais vraiment pas de bol. Mais j'aime beaucoup Diplomatie parce que c'est un jeu où c'est tous tes choix. Il n'y a pas de dés, c'est que de la négociation, c'est que toi qui vas persuader, convaincre d'autres personnes qu'il faudrait faire ça. Et pour moi, ça, c'est vraiment, vraiment un énorme challenge, quoi. Donc, j'adore Diplomatie. Il n'y a pas de dés, il n'y a pas de modificateur de chance, il n'y a pas de ça du tout, quoi. Donc, c'est tout ton rôle, tes choix, comment toi tu vas arriver à persuader, convaincre. Un des autres trucs que j'adore sur Diplomatie, c'est... Déjà, il y a un maléfice sur le jeu, il paraît, qui ruine les amitiés. Hein. On parle du maléfice de Diplomatie. Il y a un pouvoir magique que ce jeu a pour détruire des amitiés de longue date. Hein. Ça, c'est clair et net. Donc, une des questions que j'avais pas fait dans le, sur la section de, des échecs, hein, je pensais pas que c'était, ça valait le coup, quoi, vraiment. Enfin bon, la question était pourquoi est-ce qu'on devient tant si émotionnel par, avec diplomatie, le jeu? Et je pense qu'une grande partie, c'est que on est tellement investi de manière émotionnelle dans le jeu, parce que le jeu, en fait, au final, est à propos de confiance, quoi, c'est à propos de confiance. On est tellement émotionnellement investi que quand on est trahi, parce que tu vas être trahi, évidemment, dans le jeu, à ce moment-là, c'est pas que t'as trahi la France ou le Royaume-Uni ou, non, tu m'as trahi, moi, personnellement. Et je pense qu'il y a un truc là-dedans, il y a un élément qui ramène à la résonance émotionnelle d'un jeu de rôle, ou que peut invoquer un jeu de rôle que la plupart des jeux de plateau ne peuvent pas. Parce que il y a une distance émotionnelle entre moi et mes pièces dans un jeu de plateau, la plupart du temps, hein. Mais elle est fragile. Je pense que ça a, ça a un rapport avec le jeu de rôle et le, qui, ça génère une réponse émotionnelle. Oui, oui, absolument. Ouais, ce qui est intéressant, parce que c'est assez intéressant, donc, peut-être, tu connais pas mal, tu as dû lire plus sur le design de jeu. Donc, tous les mammifères jouent, hein. Oui, pour apprendre. Mais qu'est-ce que tu crois qu'on apprend quand on joue au jeu de rôle ou quand on joue à jeu de plateau? Ah bah, plein de choses, hein. Je disais à l'époque que il faudrait que toutes les, tous les lycées aient une classe de logique et raison. Et, donc, les R classiques, enfin, lire, écrire et l'arithmétique. Donc, enseigner aux gens comment penser, comment fonctionne la méthode scientifique, comment construire un argument. C'est ultra important. Donc, comment faire appeler à la fois aux émotions et à la raison. Donc, apprendre comment à penser, quoi. C'est ça qui est absolument essentiel. Donc, par exemple, si tu veux être un officiel ou travailler dans le gouvernement, dans n'importe quel cas, tu devrais apprendre la théorie de, du jeu, game theory. Je veux pas dire le truc mathématique de probabilité, je veux dire la théorie de jeu, quoi. Une des meilleures classes que j'ai pris à la fac, c'était une classe sur la théorie du jeu. Et donc ça m'a appris énormément sur l'économie, ça m'a appris énormément sur le gain et la perte, sur les probabilités, sur... je pense qu'énormément de gouvernements seraient... bien ça vaudrait le coup qu'ils étudient la théorie du jeu et de comprendre les concepts de base du jeu, parce que beaucoup de gouvernements sont basés sur sur l'équitable. On veut que les choses soient équitables, on veut pas qu'elles soient arbitraires. C'est assez humain. On veut donner aux gens la meilleure opportunité possible pour qu'ils puissent réussir, parce que ça aide tout le monde. Enfin, en tout cas, c'est l'idée de base, hein, je veux dire. Si on écoute les débats américains des républicains en ce moment, bon, c'est pas le sujet, mais si on imagine que les gouvernements sont, le boulot d'un gouvernement, c'est de rendre les choses équitables et justes pour tout le monde, et aider tout le monde, eh ben, si c'est ça le cas, je pense que tu devrais regarder vraiment, les gouvernements devraient regarder vraiment comment fonctionnent les jeux et la théorie du jeu. Parce que dans les jeux, il y a vraiment énormément d'idées intéressantes sur comment faire en sorte que les choses soient équilibrées, soient équitables et soient justes. Et une des choses qu'on peut retirer du jeu de rôle, je pense, c'est la compétence de base sur comment raconter des histoires. Comment raconter des histoires. Si on regarde tous les films d'Hollywood, si on regarde... Et moi, je suis un grand fan de catch. Si on regarde le catch et si on regarde le World Wrestling Entertainment et Hollywood, ils savent pas comment raconter des histoires. Soyons honnêtes, ils savent pas comment raconter des histoires, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de films et beaucoup d'émissions de catch à la télé puent, quoi, sont nuls. Ils comprennent pas le concept de base d'une histoire, quoi. Comment et pourquoi fonctionne une histoire. Par contre, les jeux de rôle, c'est vraiment une bonne manière pour enseigner comment fonctionne une histoire et comment créer une bonne histoire qui marche. Donc c'est quoi les éléments de base, du coup? Quels sont les éléments de base? Bah, je veux dire, ça dépend quel genre d'histoire tu veux raconter d'abord. Donc, les histoires, c'est des trucs complexes, c'est assez énorme. Hein. Et j'ai tendance à... à m'énerver, enfin à être amusé. J'avais un petit cartoon sur mon mur que mon ex-femme m'avait dessiné. J'étais au bureau d'Alderac à l'époque, il y avait tout ce truc autour du bureau. Et d'ailleurs, c'est un truc général, il y a que tant d'histoires. Ah oui, c'est un gros truc, ça. C'est un grand sujet. Moi, j'ai vu dans le monde de la publicité et du marketing aussi, on dit qu'il y a que tant d'histoires, 8 histoires, 9 histoires. Ouais. Donc il y a un mec qui tient un panneau qui dit il y a que 3 histoires, et un autre qui dit qu'il y a que 7 histoires, et un autre qui dit il y en a que 22, il y a que 22 histoires. Et dans le coin, il y en a un autre qui dit il y en a un autre avec une machine à écrire dans un coin qui écrit. Et ça, c'est le cartoon, et t'as toutes les flèches qui disent théoriste, critique, et t'as que le mec dans le coin qui est écrivain. Le mec qui est écrivain. Alors, bon, il y a que tant d'histoires. Va parler au mec qui s'appelle Chuck Palahniuk, le mec qui a écrit Fight Club. Dis ça, comment il s'appelle? Christophe McQuarrie, qui a écrit le Usual Suspect. Dis-le à, enfin bon, dis-le à, Inherent Vice, le film, le mec qui a écrit ça, le bouquin dont c'est tiré, qui a écrit Gravity's Rainbow aussi, Oliver Pynchon, dis-le à Kadic, dis-le à... Enfin bon, il n'y a que tant d'histoires, mais bien sûr, les gens qui disent ça, ils ne disent pas d'histoire. Ils lisent des bouquins qui ne sont pas de la fiction à propos des histoires. Enfin bon, il y a des histoires sur tout et n'importe quoi. Les contes de fées sont des histoires qu'on raconte aux enfants parce qu'ils, enfin, tu peux pas dire à un gamin, faut pas aller dans la forêt, tu vas te perdre. Ils comprennent pas, ils écoutent rien. Mais littéralement, l'esprit d'un enfant, le mental d'un enfant a pas encore construit tous les choix, conséquences, causes et effets. Mais si tu leur dis à un monstre dans la forêt qui va te manger, ils vont pas aller dans la forêt parce qu'ils vont avoir peur. Bon. Voilà. Donc ça, c'est les contes de fées. Les contes de fées sont des histoires qu'on dit aux enfants, qu'on raconte aux enfants pour leur donner des leçons sur des sujets qu'ils comprennent pas ou qu'on juge qu'ils comprennent pas, en fait. Ensuite, t'as des histoires pour l'avènement d'un âge, donc des rituels, changement de la transformation entre un enfant, l'enfance, l'adolescence et l'adulte, l'âge adulte. Et on n'a plus ce rituel en ce moment. On n'a plus ce genre de rituel. Ok, c'est l'heure de prendre tous tes trucs d'enfance et te jeter dans l'âge adulte. Donc on n'a plus ça. Donc maintenant, on a des gens comme Donald Trump qui sont des enfants de 60, je sais pas combien, qui ont jamais appris que c'était l'heure d'être un adulte et qui ont jamais appris que il y a des trucs qui font peur, il y a des trucs où il faut être responsable en tant qu'adulte, quoi. Et puis ensuite, on a des gens, il y a des histoires sur la fin de la vie, le crépuscule de la vie, comment faire face au crépuscule de la vie et que tu te réveilles et que t'as mal tous les jours. Enfin, d'ailleurs, maintenant que je suis en train d'arriver dans presque 50 ans, enfin, 40 ans, et je me lève, j'ai genre mis du mauvais côté, j'arrive pas à lever mon bras au-dessus de mon coude, au-dessus de mon épaule. Genre, hier soir, j'ai découvert que je peux plus manger des buffalo wings. Ah non, ça c'est vraiment, vraiment horrible. Donc, comme, ouais, et mon système digestif m'a dit que je peux plus manger. Hier soir, il m'a dit non, il y a les wings épicés là, tu peux plus, quoi. Donc, c'est une partie importante de la vie, quoi. Les histoires sont une partie importante. Alors, bon, là, je vais rentrer vraiment dans le trip Joseph Campbell, mais... Donc, sur le fil des histoires, sur le fil d'Ariane, qui nous laisse regarder et voir ce qui va venir. Donc, voilà ce qui vient, voilà ce qui arrive dans ta vie, quoi. Et ça te prévient en avance. C'est les histoires d'autres personnes te prévient en avance de ce qui va arriver. Donc, voilà. Donc les histoires ont des buts et des intentions et des objectifs différents. Parfois c'est juste pour nous remonter le moral. Hein. Il n'y a rien de mal d'ailleurs d'avoir une histoire qui te remonte le moral. Il y a une super distinction. Il y a quelqu'un qui dit que deux genres d'histoires. Il y a une distinction entre la pornographie et l'art. Il dit la pornographie, c'est l'auteur, l'artiste qui donne à l'audience ce qu'il veut. Alors, donnant, donc par exemple sexuel, bon, je veux un truc et je retire quelque chose. Mais bon, le film des Transformers, par exemple, c'est du porno aussi. C'est, ça te donne exactement ce que tu veux. Tu sais ce que tu vas avoir. Tu sais ce que tu vas avoir quand tu t'assois. Ça te le donne. Les films de Quentin Tarantino, les films de revanche, pour le coup, c'est très, très pornographique, quoi. C'est je veux un film de revanche. Bon, ben, on va regarder un film de Quentin Tarantino. On sait ce qu'on a. L'art, c'est différent. L'art peut donner à l'audience ce qu'il a besoin, ce qu'elle a besoin, sans qu'elle le sache. Donc ça pourrait être un peu prétentieux, hein, mais en même temps, enfin en tout cas dans la distinction, mais je veux dire que beaucoup de choses qui sont... Enfin moi j'aime bien utiliser Fight Club en tant qu'analogie, c'est très subversif. Et c'est très populaire, donc la plupart des gens comprennent l'analogie. Et beaucoup des films de David Fincher aussi tombent dans cette catégorie que j'apprécie. Ils ont une prémisse qui t'embarque légèrement et ensuite te balance complètement dans autre chose avec plein d'autres éléments, plein d'autres détails. Enfin, bon, j'aime bien ce genre de raconter des histoires. J'aime bien ce genre que Fight Club commence un peu comme un espèce de truc porno. Hey, est-ce que t'es genre 30 ans, mal? Est-ce que t'en as ras-le-bol de la société? Tous ces trucs-là. Génial. Bon, ben voilà ce mec-là qui va te dire tout ce que tu veux entendre et qui va te faire sentir important et puissant. Et ensuite, on va te montrer complètement un autre côté. Il va te montrer qu'il est complètement... qu'il raconte un autre, quoi. Donc ça commence d'une manière, ça finit d'une autre manière complètement différente. Et c'est un genre d'histoire particulier, subversif dans plein de manières différentes et que j'aime beaucoup. Et ensuite, ça subvertit sa propre subversion. Enfin, moi, je trouve ça super fun, quoi. Donc, oui, évidemment, on est une race à raconter des histoires, quoi. Mais c'est très, super important. Ok. Et pour toi, ton intérêt pour les histoires, enfin, évidemment, on n'arrête pas d'en parler, mais entre l'intérêt pour les histoires et l'intérêt pour les jeux et le design et la création des jeux, où est-ce que ça t'est venu, en fait? Et j'ai lu sur un bouquin que ton premier jeu de rôle était L'Appel de Cthulhu. Est-ce que t'écrivais déjà des histoires de fiction avant ou... Ouais, bah, quand j'étais en CE1, quoi, j'ai déjà commencé à écrire mes BD pour ma famille. Et je les vendais. Ouais, j'aime bien le fait que tu les vendais. Ouais, je les vendais à ma famille. Quel genre d'histoire? Je faisais des BD de Spider-Man. Donc j'écrivais, je dessinais, j'ai essayé de si dur, j'ai essayé vraiment, 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 j'en ai fait plein, j'ai essayé d'être artiste, mais c'était pas mon truc, enfin, c'était pas mon truc. Et c'est pas parce que j'étais pas passionné, hein, je suis pas très bon dessinateur, quoi, je suis pas très fort à ça. Je suis un gros fan de comics, et j'étais en train de lire Daredevil, et j'ai remarqué que l'artiste, enfin Frank Miller, est devenu l'écrivain, l'auteur. Et enfin, je me suis dit, mais attends une seconde, il y a un truc à cliquer. Ensemble, j'ai dit, attends, les BD ont des écrivains? Ah non, mais attends, mais moi j'écris, en fait, je peux écrire. Moi, je me voyais comme un artiste, donc je me voyais pas comme un auteur ou un écrivain. Tu vois? Et j'ai réalisé que les comics... tu peux avoir deux, tu peux avoir l'écrivain et le dessinateur. Et donc, du coup, j'ai parlé avec un pote à moi qui était super dessinateur. Et on s'est mis ensemble et on a commencé à faire des BD ensemble, du coup. Et on a vendu cela. Et on a commencé à faire des sous, en fait, d'ailleurs. CM1, CM2, un truc comme ça. Et puis ensuite, on faisait des sous avec nos comics et puis après, on a déménagé. Enfin bon. Mais ouais, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai vraiment commencé comme il fallait, ben en CM2. Et avec notre prof Mr. Jones, qui était vraiment fantastique de ce côté-là. Il y a eu une conférence, enfin une réunion de parents d'élèves, et ma mère a dit, Monsieur Jones, John ne sort pas, il reste dans sa chambre, il écrit, il lit tout le temps, c'est tout ce qu'il fait. Et à son crédit, Monsieur Jones a dit, c'est une très bonne chose. J'arrive pas à forcer mes gamins à lire et le tien, il arrête pas. Le vôtre, il arrête pas. Et donc, ça a changé vachement l'opinion de ma mère là-dessus. Et la première fois que j'ai créé un jeu de rôle, c'est avec mon pote Jim Wilson au lycée. On jouait à Dragonlance. on n'aimait pas le système de sortilège, de magie. Et c'est lui qui faisait, il était le jeu là sur Dragonlance, et on est resté debout tout un week-end, et on a créé un nouveau système de magie pour Dragonlance. Et on était genre, bon bah écoute, si on fait un nouveau système de magie, bah pourquoi on ne crée pas un nouveau système de classe? Et on a comme recommencé à bosser là-dessus. Donc voilà, à partir de là, on a fait notre petit système fantasy, et c'était la première fois que j'ai eu cette notion que, bah, on peut inventer tout ce bordel, quoi. Et c'est toujours la blague que je raconte aux gens, d'ailleurs, dans les séminaires de game design, les formations. Je dis, bah, il y a un moment donné ou à un autre, il y a quelqu'un qui va comprendre qu'on l'invente tout ce bordel, quoi. On l'a complètement inventé. Ouais, c'est une bonne remarque que j'aime bien. D'ailleurs, je t'avais entendu le dire dans un autre entretien. Et c'est assez excellent que tu... Bah, tous les auteurs inventent tout. Bah, les écrivains, on est toujours en train d'écrire leurs BD, leurs bouquins. Et une définition de quelqu'un d'autre était qu'un jeu de rôle est... Oui, l'auteur et l'acteur en même temps. Oui, c'est Robin Laws qui dit ça. Donc c'est le seul médium littéraire, et j'aime bien qu'il utilise ça, médium littéraire, où l'auteur et l'artiste sont la même personne. Et bon, moi, j'ai toujours ma remarque à dire, hein, donc, sauf le fanfiction. Et tandis que j'ai exploré ça, donc, tandis que j'ai exploré cette idée, je pense que Robin... Enfin, j'aime beaucoup cette définition, quoi, vraiment. Et je pense que... pour qu'on est en train de jouer à un jeu de rôle, une des choses à considérer, c'est que les autres gens dans le groupe sont votre audience, en fait. On joue pour eux. Donc, qu'on soit joueur ou même jeu, d'ailleurs. Et ça vient de moi qui joue dans beaucoup de GN. J'aime bien l'immersion d'un GN. Donc c'est un jeu de rôle où on est en train de se balader, on est déguisé, t'es pas juste à la table avec les dés, hein, mais t'es en train de jouer le rôle en réel, quoi. Pour les gens qui connaissent pas, hein, de l'audience. Oui, j'allais juste mentionner, mais très bien. Et d'ailleurs, ça me rappelle un autre truc, une question que je voulais te poser, parce que il y a un autre interview que j'ai écouté où tu mentionnes une référence aux Nations Unies, le modèle des Nations Unies. Oui. En tant que définition pour expliquer le jeu de rôle aux gens qui connaissent pas. Ouais, j'étais à un séminaire de formation sur le comment designer, comment créer un GN. C'est un truc de GN. Et en général, j'aime pas être trop critique, hein. Mais tout comme Donjons et Dragons, c'est un peu la marque pour tous les jeux de rôle, Vampyr, c'est un peu la marque pour tous les GN, quoi. Dès qu'on pense au LARP, dès qu'on pense au GN, au semi, on pense à Vampyr. Ok. Donc ce séminaire, évidemment, il y avait plein de gens qui jouent au Vampyr. Donc évidemment c'est une manière de jouer en GN. Évidemment le vampire c'est une manière, mais c'est pas la seule manière de jouer, quoi. Et donc il y a des gens qui demandaient comment est-ce que tu fais un GN, comment est-ce que tu fais ça, comment est-ce que tu fais ci. Et quasiment tout sortait de la seule perspective de vampire. Donc c'était un truc de formation, il y avait un panel, tout le monde était en train de parler. Et ensuite, j'ai dit, bah écoute, les Nations Unies, le modèle des Nations Unies, c'est un GN. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de stats, il n'y a pas de dés, il n'y a pas de chifouillis, il n'y a rien. Il n'y a pas de dommages, il n'y a pas de dégâts, mais c'est un GN où moi, je suis en train de prétendre d'être l'Argentine, toi, tu prétends d'être la Yougoslavie, on essaie de trouver une solution à nos problèmes. On a des motivations, on joue des joueurs, on a des rôles. Donc c'est une idée très très simple, hein. Il y a un pote à moi, Trey, qui est à la librairie Ronald Reagan. Il est en train de concevoir, il est en train de bosser dessus en ce moment. Il est en train de concevoir un GN où tu es assis à la situation de la salle de crise dans la Maison Blanche au moment où il y a une crise avec le président, les ministres, les généraux. Il n'y a pas de stats, hein, dans son truc. Il n'y a pas de jet de dégâts. Non, t'es les secrétaires d'État. Et moi, je suis le Je suis le chef des général des armées. Et il y a quelqu'un qui joue le président. Et Ebola vient d'exploser aux États-Unis. Épidémie, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est un GN. Ça me fait penser aux salles de escape, aux salles pour s'échapper, les puzzles, qui sont pour jouer des puzzles, escape rooms, mais on pourrait en faire des GN aussi, en fait. Hein. Ouais. C'est quoi l'escape room? Ah oui, c'est quand t'es enfermé dans la pièce et il faut que tu sortes. Oui, il y a des puzzles, il y a des trucs qui... Et t'es en groupe ou... Genre entre 2 et 6 personnes, on t'enferme dans une pièce, il faut que tu arrives à trouver et gérer des puzzles pour pouvoir ressortir de la pièce. Il y en a à Paris, il y en a un peu partout. Julien a joué, je crois, récemment. Et d'ailleurs, Julien a aussi été un compteur pour Vampire en GN, donc pendant très longtemps, donc je voulais voir si t'avais pas une question pour... Ouais, si on parle de GN. Alors, parlons de GN. Oui, premièrement, ouais, j'étais compteur Vampire, disait Julien, pendant 6-7 ans, je crois. On a joué à Paris. Ouais, on a joué dans toute la France, en rien. Et Vampire GN, c'est une des manières de faire du GN, hein, mais c'est pas la seule. Moi, j'en ai fait plein de science-fiction, fantasy, il y a plein de GN différents. Et le modèle Nations Unies dont tu parlais, c'est très très intéressant. Hein. Ah, il y a un truc dont je voulais parler il y a 2 semaines. J'étais à une grosse convention à Nantes, en France, aux Utopiales, et on a parlé de GN. Avec quelqu'un qui utilisait ça dans un environnement professionnel. Il enseignait la gestion de crise, la résolution de crise, aux gens d'une cinquantaine d'années, enfin bon, j'en sais rien, des managers, quoi. Je sais plus quel genre de boîte, en fait. Mais... Et c'était super intéressant de l'entendre parler de la gestion et la résolution de crise à travers un GN et comment ça peut aider à résoudre des problèmes. Donc je sais que Willem va en parler à une conférence bientôt aussi, donc peut-être tu veux en parler. Oui, c'est Romain là. Enfin, c'est une des raisons, c'est pas la seule raison dont je parle, mais c'est un domaine très intéressant que je veux explorer, la résolution de conflits. Mais une des choses difficiles... pour introduire ça dans des institutions, des organisations, comment est-ce qu'on fait pour faire du team building en entreprise pour que tout le monde soit d'accord sans être cynique, quoi? Et c'est un des trucs, enfin, moi je pense que c'est... J'ai pas la règle parfaite, mais je pense que la plupart des gens dans le boulot veulent pas participer à ce genre d'exercice parce qu'ils trouvent ça chiant. Bah ouais, mais faut que ce soit fun, quoi, faut emmener le fun. Et ça, je pense que c'est un des trucs les plus difficiles à faire. C'est un truc le plus difficile à faire, c'est le plaisir du jeu. Et moi, je connais plein de designers et concepteurs de jeux qui disent que le fun est l'ennemi du game design. Et là, je comprends pas ça. Moi je t'avoue, je comprends pas ce que ça veut dire, ça. Bah, moi, je comprends pas non plus. Hein. Non, je capte pas. J'ai entendu dire ce truc-là et les gens qui m'ont expliqué. Il y a une phrase aux États-Unis qui dit du spaghetti verbal, où on dit aussi il y a une soupe de mots ou une salade de mots. Enfin bon, c'est du charabia, quoi. On pourrait dire que l'émergence ne concorde pas avec l'intelligence du joueur pour pouvoir procéder. Ah non, mais je dis arrête, mais de quoi tu parles? Tu dis que des mots, là, ça veut rien dire. C'est marrant parce que moi je bosse dans le marketing publicité et on adore les mots-clés comme ça, les buzzwords en anglais. Hein, et storytelling, c'est un gros truc d'ailleurs qui se dit en français en anglais. Hein. Et, qu'est-ce que tu penses du mot dans ce genre d'environnement, dans l'environnement de la publicité? Vous, en Europe, vous avez peut-être des pubs très différentes des nôtres, hein, je sais pas, hein, moi parfois je regarde la télé européenne, et c'est très différent de la télé américaine. Hein. En ce moment, la grosse tendance dans la pub aux États-Unis, ce qui est vraiment bizarre, hein, ce qui est chelou, enfin je sais pas, peut-être vous avez vu ça, mais moi j'ai l'impression que la grosse tendance aux États-Unis, hein, c'est de dire, regarde qu'est-ce qu'ils sont cons nos clients. Ah bon? Ouais, non, franchement, c'est chelou. Donc genre, Donc j'ai ce produit. Ok. C'est un très bon produit. Et quelqu'un qui vient, hey, est-ce que tu as ce produit? Ah ouais, j'ai ce produit. Hey, j'aime bien ce produit. Ouais, ouais. Ouais, c'est mon produit, va te faire foutre. Et ensuite, t'as le genre produit, quoi. Et là, c'est la pub. T'es là. Ah ouais. Tes clients, c'est des connards, quoi. Les mecs qui achètent ton produit, c'est des cons. Ah bon? Ouais, moi, j'ai pas vu cette tendance. Bon, déjà, je regarde pas beaucoup la télé, hein, je t'avoue. Et la plupart du temps, si je regarde des publicités, ça va être soit des trucs parce que je suis en train de suivre les meilleures pubs qui sont sur des journaux, genre Adweek ou Stratégie, machin. Et les États-Unis sont très très fans d'anti-intellectualisme, d'ailleurs. Une phrase de Isaac Asimov. Moi, j'appelle le culte de l'idiot, quoi. De l'idiotie. On révère les gens idiots, quoi. Ouais, c'est là où Mike Judge avait un truc avec idiocratie. Oui, exactement, idiocratie, ouais. C'est l'anti-culte débile, mais genre les films de Will Ferrell, il se boit la gueule ou il se défonce et il court tout nu, c'est genre, c'est très rigolo. Enfin, je comprends pourquoi, quoi, si tu veux, mais... Et on le voit dans... D'ailleurs, ce qui est assez triste, on le voit dans les trucs présidentiels, genre Ben Carson en train de dire, quoi, genre... Ouais, le monde a que 6000 ans, t'es là, putain, et... Les pyramides, on mettait du grain dedans... Vraiment, ça a atteint les élections présidentielles. Je veux dire, la moitié de moi est en train de dire, s'il vous plaît, ne laissez pas ces gens être élus. L'autre moitié, allez, qu'on les élise et qu'on voit à quel point c'est une connerie et qu'on le fasse plus jamais, quoi, s'il vous plaît. Parfois, il y a des trucs dans l'histoire, il faut qu'ils arrivent quelque part pour qu'on réalise que ça devrait plus jamais arriver, peut-être. Je sais pas. Une pensée intéressante. Ce qui me fait réfléchir, qu'est-ce que tu crois que l'impact des médias sociaux, des médias de masse, pour étaler, enfin distribuer très rapidement ce genre de culture de l'idiotie dont tu parles? Enfin, la plupart des gens sont toujours en train de regarder la télé. Hein, maintenant, on est en train de regarder nos téléphones, on a nos iPads, nos machins. Et on est en train de prendre des selfies. Enfin, je peux prendre ma télé avec moi, quoi, c'est ça? Ouais. Ouais, et je peux regarder l'Internet, prendre ma télé avec moi. Bah, je sais pas. Moi, je suis pas assez intelligent pour vraiment commenter le pourquoi de ce genre de truc, mais je peux observer, je peux dire, ok, ça me préoccupe, c'est vraiment pas top, mais bon. Après, il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi pour commenter ce genre de choses, je pense. Après, ça a toujours fait... Anti-intellectualisme a toujours fait partie de la culture américaine. Asimov en parlait dans les années 40. Donc, bon, ça a été au moins autant de temps que ça, probablement plus longtemps. Après, qui sait? Non, on avance. Après, c'est juste, on n'est pas obligé de donner toutes les réponses à tout. Hein. Mais revenons à un autre sujet, donc. Et pour revenir à un de mes jeux préférés, parlons de la Princess Bride, je sais pas comment on dit en français. Tu dis que c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur film. Ouais, j'ai un truc que je fais, parce que j'aime bien foutre la merde. Je parle du meilleur film jamais fait. Et que tu disais que c'était aussi les aventures de Jack Burton. Oui, oui, aussi le meilleur film, j'aime. Le meilleur film du monde, aussi L'Arnaque, aussi Fight Club. J'ai un gros problème avec les critiques. Je déteste les critiques, les films de critiques de films, les critiques de jeux. Ne fais jamais confiance à quelqu'un dont le métier est de critiquer les accomplissements et les créations des autres. Non, j'aime pas ça. Donc c'est un contre-subversif truc, je sais pas. Donc moi je dis toujours c'est le meilleur film qui a jamais été fait. Juste à moins que t'affirmes. Oui, c'est une affirmation. J'aime beaucoup Imprime. Imprime, tu connais Imprime? Non, je connais pas. Donc c'est un outil linguistique qui enlève le verbe être de la langue. Donc tu peux pas dire ce film est bon. Ce film est lent. Ce film, tu dis, tu peux plus, tu enlèves le verbe être. Tu dois dire, je me suis ennuyé. Donc, tu essayes de changer l'objet et l'objet de la phrase. Ah, tu changes de film est comme ça que je me sens comme ça avec le film. Donc je pense qu'on ça changerait énormément les critiques de films. Donc plutôt que dans mon blog, j'écris des non-revues, des non-critiques. Ça fait genre, j'ai regardé ce truc-là, j'ai passé un bon moment à regarder ce truc-là, voilà pourquoi j'ai passé un bon moment à regarder ce truc-là. Si ce genre de choses te plaisent, peut-être que ça va te plaire aussi. Et ce qui, au final, donne une critique et une revue plus intéressante, une opinion plus intéressante, je trouve, du film, que de dire, voilà comment j'ai pensé que le film... J'avais un pote qui faisait un truc qui était je pense pas qu'il le fasse, mais c'était il avait un système de revue de films binaires. Donc tous les films qu'il allait voir, ils étaient soit 0 ou 1. À chaque fois qu'il allait au ciné, il envoyait un tweet ou il envoyait un truc sur le site. Donc, soit les critiques de films binaires. Soit le film, il est 0, le film, il est 1. Enfin, voilà. Les aventures de Jack Burton, meilleur film jamais réalisé. Ça, c'est clair. Chaque ligne du film peut être utilisée en phrase hors contexte, quoi. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps, j'avoue. Chacune des lignes de ce film, Les Aventures de Jack Burton. J'adore ce film, je suis mort de rire devant tout le film. Le premier film dont je me souviens avoir vu, c'est L'Arnaque. C'est le premier film dont je me souviens. Et je me souviens, j'étais avec mon père, je suis sorti du cinéma, j'ai dit, ah mais moi je veux faire ça dans la vie, comment je fais? Je savais pas ce que c'était qu'un arnaqueur, un mec. Moi j'étais là, putain, moi je veux faire ça quand je grandis. Et ensuite, The Princess Bride, je sais pas comment on dit en français. Ça, c'est le film parfait, quoi. Donc du coup, est-ce que tu pourrais parler un peu de La Septième Mer? Donc c'est un des jeux que t'as designé. Est-ce que tu peux parler un peu de La Septième Mer et comment ces films t'ont inspiré pour ça? Ouais, La Septième Mer. Donc ça a démarré comme en tant que discussion entre Jennifer, mon ex-femme et moi. Donc on voulait faire un nouveau jeu pour Alderac, et on travaillait pour Alderac Entertainment Group à l'époque. On en avait ras-le-bol des samouraïs, on en avait bossé sur des samouraïs, j'avais dit toutes les histoires que je voulais en long et en large sur les samouraïs, j'en pouvais plus, mais je voulais changer. Et on voulait changer, et on était en train de balancer des idées sur la table, réfléchir, on en parlait, on voulait un truc vraiment sombre, sexuel, sensuel, politique. Jennifer pensait vraiment à de la magie de sang viscéral, genre faut que tu coupes la main et tu balances du sang pour faire de la magie, ce genre de truc. Et on a écrit pas mal de trucs, on a mis des notes ensemble, on a pitché une idée. Et ce qu'on a pitché en fait, l'idée qu'on a pitché dans 7-6, c'était la vodache en fait. Donc on a pitché ça au boss de AG, Alderac, et pendant qu'on bossait sur ce truc-là, il y a John qui a bossé sur le truc, tout le monde avait une idée à pitcher sur ce qu'allait être le prochain jeu, le prochain gros jeu. Hein? Donc nous on a bossé là-dessus, ce qui allait devenir 7-6. Donc on a balancé cette idée-là, il y a d'autres gens qui ont commencé à bosser avec nous, on a fait des brainstorms là-dessus, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre. Et John n'aimait pas le truc, c'était très précis. C'était très sombre, hein, l'idée qu'on avait à la base. Il n'aimait pas trop, c'était trop sombre, on a commencé à transformer ça en autre chose. Et ça a commencé... J'étais en train de lire une biographie d'Isaac Newton, qui s'appelle Le Dernier Magicien. Très très bon bouquin sur Isaac Newton d'ailleurs. Et je suis rentré dans son bureau, j'ai dit, attends, voilà le jeu. Le jeu, c'est Isaac Newton, homme d'action. Et il a dit, je comprends pas ce que ça veut dire. Et je lui ai dit, moi non plus. Mais bon, j'étais là, comment lui expliquer? Et on a parlé. Et c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, un jeu. Moi, j'avais un gros signe sur mon mur qui disait. Le thème du jeu, c'était donc comment est-ce qu'on créer un film d'Errol Flynn, La Princess Bride, comment est-ce qu'on fait un jeu qui a le ressenti des grands films d'action comme ça, de cap et d'épée. Et c'est un des trucs que j'adore hein, sur ce jeu, vraiment. Comment est-ce qu'on emmène d'être un héros haut en couleur, qui se balance de chandelier, qui gagne toujours. Ce qui ramène à un article que tu as écrit dans ton blog récemment sur ce qui est vraiment génial dans un jeu de rôle, c'est de gagner, de faire plein de trucs, des actions d'éclat. C'est ce qu'on aime bien. Est-ce que c'est un truc que tu recherchais? Ouais, enfin, c'est moins perdre. Et ce qu'on appelle, mon pote appelle le whiff factor. Donc, par exemple, si on utilise Game of Thrones et je suis Tyrion Lannister, je suis en face de tous ces gens, j'ai les mains attachées, il faut que je fasse ce discours pour gagner ma vie, pour sauver ma vie, ou sinon je suis assassiné, exécuté. Mais je suis Tyrion Lannister. Et j'ai, du coup... On est sur là, oui. Donc, je suis Tyrion Lannister, j'ai ce gros speech, et malheureusement, enfin, heureusement, j'ai cette compétence qui s'appelle le speech de Tyrion Lannister, le super speech qui sauve ma vie. J'ai mis toutes mes points dans la tchatch. Et je joue, je jette mon dé, je fais un 1, je perds, je suis mort. Voilà ça que je veux dire par le whiff factor. L'autre élément que Jarod ramène, c'est... t'es dans un donjon, t'arrives devant une porte fermée, et le combattant dit « je vais la casser ». Ok, il échoue son jet. Et le voleur essaye son jet, il dit « ok, il échoue ». Tout le monde échoue chez jet. De l'autre côté du jeu, il y a l'aventure. De la porte, l'autre côté de la porte, il y a l'aventure. Ou alors ça vient dans Sherlock Holmes, t'es Sherlock Holmes. Tu dois trouver un indice pour faire avancer l'aventure, et tu échoues ton jet de dés pour trouver un indice. Il y a toujours une chance que t'indices, parce que l'échec est intéressant, entre guillemets. Mais c'est chiant, en fait. Et c'est contre-productif, au final. Ça démontre un manque de compréhension pour la façon dont fonctionnent les histoires. Et si les jeux de rôle sont à propos de raconter des histoires, à ce moment-là, l'échec doit être intéressant. C'est pas l'échec rend les choses intéressantes, c'est que l'échec doit être intéressant. Sinon, c'est juste un échec. C'est chiant. Ça doit être dramatique, ça doit être un truc dramatique. Ouais, un choix peut-être, ou... C'est là où un autre domaine où les jeux de rôle sont intéressants, je pense. Et on en parle dans notre podcast, quand j'en ai parlé d'autres, des dilemmes moraux et des choix. Une des autres choses qui sont intéressantes, c'est les histoires. Oui, exactement, je m'en fous. Je m'en fous d'un échec au pif. Il y a un dessin animé que j'adore. Le mec, enfin un cartoon sur George Martin. Il appelle ses potes, il les appelle pour un jeu de Donjons et Dragons, il doit écrire un chapitre. Et ses potes vont dire « Non, t'es un psychopathe, tout ce que tu fais c'est tuer nos personnages, on veut plus jouer avec toi, ciao quoi ». Et à la fin, le dernier panel du truc du cartoon, il est tout seul, George Martin, il est tout seul à la table. Mais oui, si tu tues tous les personnages arbitrairement, on s'en fout, donc moi je veux plus jouer. Si tu vas tuer tous les personnages parce que tu peux, bah, je m'en fous. Je veux plus. Hein? À Phoenix, j'habite à Phoenix. Il y a une grosse communauté de geeks. On fait une grosse partie d'Halloween. Cette année, c'était Game of Thrones Halloween. C'était génial. J'y vais en tant que George Martin. J'ai été en tant que George Martin. J'ai été avec un carnet avec tous les noms des personnages et un petit chapeau. Et j'ai été voir chacune des personnes à la fête et j'ai dit, salut, qui es-tu et pourquoi est-ce que t'es important? Et dès qu'ils hésitaient, je barre leur nom et je leur dis, t'es mort. Je me baladais dans toute la fête et ensuite, les gens se préparaient. Ils préparaient des raisons. Je me suis Jon Snow et pourquoi je suis important? Mais je m'en fous. Tu meurs quand même. Je leur disais ça. Je leur dis, je barre leur nom, t'es mort. Encore. Donc du pour moi, il y a des gens qui disent que les dés équilibrent le jeu. Mais non, ils équilibrent pas le jeu. Les dés sont arbitraires. Non, ils sont pas, ils réfléchissent pas. Ils peuvent pas prendre de décisions. Ils peuvent pas arbitrer. Ils font des jets à la con, des jets chiffres arbitraires. Les gens sont équilibrés, peuvent être équilibrés. Bon, c'est pas exactement vrai, on a appris d'autres trucs en psycho depuis, mais on est les seuls animaux qui peuvent reconnaître la justice, on n'est pas sûr, mais bon. On est une des seules espèces qui peuvent reconnaître l'équilibre, la justice, qui peuvent reconnaître « Hey, tu sais quoi, c'est pas juste, il faudrait qu'on redresse ça ». Donc quand on raconte une histoire, comment est-ce que les dés rendent les résultats intéressants? Ils ne rendent pas les résultats intéressants, les dés, c'est nous qui rendons les résultats intéressants. Donc l'intérêt de l'article, moi je suis en train de concevoir un jeu, je suis en train de réfléchir à un jeu, peut-être le nouveau 7C, possiblement pourrait ça. Il se peut que je suis en train d'écrire le nouveau système de 7ème ère en le même temps, enfin bon. Donc, tu décides que tu as du succès et le dé décide ton niveau de succès, peut-être. Et tu décides quand est-ce que ton personnage échoue parce que ce serait dramatiquement intéressant. Et ensuite, le maître du jeu te donne quelque chose en échange, peut-être. En tout cas, je suis en train de jouer avec cette idée, quoi. Donc, l'échec est une option au choix du joueur. Et il peut y avoir un pot de vin, quoi. Si le jeu, il dit, OK, ce serait super intéressant si ton personnage échoue. Je te donne un truc en échange, si tu choisis que ton personnage échoue. Et je pense qu'il y a une idée, et je pense que c'est une idée qui n'a pas suffisamment été explorée dans les jeux de rôle. Enfin bon, je suis en train de l'explorer, c'est assez intéressant jusqu'ici. Julien, il y a un autre truc que tu veux demander, rajouter à ce stade-là ou... moi, je viens de jouer la semaine dernière un jeu avec une idée similaire. On pouvait à tout moment choisir d'échouer pour réussir à un jet suivant plus tard. C'était quoi le jeu? C'est un jeu qui s'appelait, en français, d'un designer suisse qui s'appelle Tigre Volant. Donc, Tigre Volant. Qui est un jeu de science-fiction. C'est un super jeu, c'est vraiment chouette. Donc c'est en phase de design, de conception encore. Donc 2017, enfin bon, il va peut-être sortir dans 2 ans. Enfin, tu seras au courant. On tiendra au courant. Je pense que quand tu expliques que l'échec doit être intéressant, c'est un truc que j'ai appris quand j'ai lu Houses of the Blooded pour la première fois, qui était vraiment une révélation pour moi en jeu de rôle. Donc, comment est-ce que ce nouveau système que tu décris est différent que celui que tu as écrit pour Houses of the Blooded? C'est rigolo parce que j'ai déjà dit ça en quelques occasions à Houses of the Blooded. Donc c'est un jeu de rôle de fantasy. Au lieu de jouer des gens que tu portes monstre trésor, t'es un noble, donc t'as des gens qui font ça pour toi. Et c'était d'ailleurs, c'est un jeu qui est vraiment né des notes de base que Jennifer et moi on a créé pour 7C. Mais c'est ce que je me suis dit quand t'as décrit 7C. Ouais, carrément. Ouais, je regardais une vieille boîte de trucs et je suis tombé sur les notes originelles de 7C avec Jennifer. Donc je me suis dit, il y a vraiment un bon jeu là-dedans, en fait. Et je suis parti de là. Donc voilà. Donc il y a la magie du sang viscéral, les politiques, et c'est sombre, et c'est basé sur la tragédie plutôt que le succès et l'héroïsme. Et cette idée d'échec. Donc le bouquin, il est aussi dédié à Jared Soroson parce que c'est l'idée que si on fait un jet élevé, les joueurs disent que ce qui va arriver, donc sinon c'est le jeu qui dit ce qui va arriver. Et c'est pas à propos d'échec ou de réussite du tout, hein. C'est pas du tout ça l'idée, quoi. L'idée, c'est qui dit ce qui va arriver. La narration.
that was really good for writing stories about that.
Et ça, j'ai trouvé que c'était un très beau concept pour raconter de la tragédie, parce que c'est le joueur, enfin le personnage échoue et le joueur a la capacité de contrôler leurs échecs. Et moi, j'ai trouvé quand j'étais en train de faire des playtests, que si le joueur a plus de contrôle sur ses échecs, le joueur a plus de plaisir à la tragédie. S'ils le disent, si c'est eux qui sont en contrôle. Alors que si c'est le jeu qui dit, tu perds et t'es mort et tu, voilà. Seul et... Alors que si c'est le joueur qui décrit son échec, ils sont ravis de le faire. Donc le système de Houses est venu de là. Le système qu'on discute, qui pourrait être dans 7-6, je suis pas encore sûr. C'est différent, parce que là, toute la base, c'est la réussite. KPDP, c'est l'opposé complet, quoi. Comment est-ce que, si tu es Inigo Montoya dans Princess Bride, ou si tu es Captain Blood dans Errol Flynn dans Captain Blood, tout le monde est super génial tout le temps, même quand ils échouent, ils échouent d'une manière spectaculaire, extraordinaire, quoi. Et ils échouent sur leurs termes, à leurs propos. Et pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça en jeu de rôle? Donc, par exemple, on parlait de porno tout à l'heure, il y a un proverbe américain, donc la compétence, la pornographie de compétence. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est... vous avez vu le West Wing? Oui. Oui, le West Wing. Ouais, la Maison Blanche. Ouais, la série télé de la Maison Blanche. Ouais, dans la Maison Blanche, tout le monde est génial, super, tout le temps. Même quand ils échouent, ils échouent de manière spectaculaire, dramatique. Tout le monde sait tout. Les mecs sont super balèzes dans ce truc. Et l'intérêt de la série, c'est pas qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'est-ce qu'on peut faire. C'est une série à propos de dilemmes moraux. Guérissons le cancer dans 10 ans. On peut pas vraiment avoir le président sortir en disant ça, c'est pas possible, parce que si on peut, on sait pas si on peut. Mais l'autre côté de l'argument, l'autre face de la médaille, c'est on devrait avoir le président dire ça, parce que si on le dit, dans ce cas-là, ça va arriver. Ou on va le faire. Enfin, et donc, il y a ça. Il y a aussi une série américaine qui s'appelle Confidence. J'ai entendu parler, je ne l'ai pas vu. Leverage. Il y a un mec dans la série télé qui est le meilleur casseur de coffres du monde. Tu le mets devant un coffre, il l'ouvre. Parce que c'est le meilleur du monde. C'est sa spécialité, il peut faire tout. Et ça que je veux dire, c'est... Moi, j'adore regarder les mecs qui sont le meilleur... Ils sont le meilleur du monde à faire un truc. Et tu regardes ce qu'ils font. Le film des Avengers, c'est très comme ça. Tous les films des Marvel, de manière générale, c'est des personnages qui sont extraordinaires, géniaux, quoi. Tout le temps. Ocean's Eleven, c'est ça. Il y a beaucoup de trucs, des films de casse, qui sont très comme ça, Tu mets la meilleure équipe possible, genre Mission Impossible, ensemble. Donc si je refaisais le système de 7-6, je suis assez intéressé à questionner, à regarder dans cette direction-là, quoi. Si tu es en train de jouer un homme d'épée qui a étudié pendant 20 ans, tu vas pas faire de 1, quoi. Tu vas pas faire d'échec critique, enfin. Ouais, il y a toujours une chance d'échec, mais non, pas vraiment. J'aime bien ce que tu es en train de dire, parce qu'il y a une idée, parce que je sais pas si c'est un truc auquel tu es en train de réfléchir aussi, mais que j'ai vu dans une mécanique de d'autres jeux, enfin, que je fais ça avec mes jeux, en tout cas. Je demande à mes joueurs de créer un concept de groupe de jeu. Expliquez-moi pourquoi est-ce que vos personnages sont ensemble, pour quel sens ça a, ouais. Donc, Game of Thrones fait ça, donc tu fais partie de la même maison, par exemple. Donc le trône de fer, le jeu de rôle, pour les gens qui ne connaissent pas, tu crées un groupe de personnages qui font partie de la même maison.
Personal motivation as a character, but there's a motivation as a group. So there's a reason why you function as a group, and it's interesting whether it's part of the game.
Yeah, we did that. I mean, that was one of my primary.
Donc ça c'était un de mes buts principaux pour la Légion des Cinq Anneaux. Hein. D'ailleurs, c'était un des challenges. Pourquoi est-ce qu'il y a un mec du crabe et un mec de la licorne et un mec du lion qui sont ensemble dans le même groupe? Ça n'a pas de sens. Et donc c'est pour ça qu'on est arrivé avec la solution qui disent, bon ben, il y a des magistrats impériaux. T'as donné loyauté à l'empereur au-dessus de ton clan, au-delà de ton clan. Et ensuite ça a créé, avec les loyautés envers le clan. Le clan te demande, il faut que tu fasses ce truc, ah, mais oui, mais j'ai loyauté envers l'empereur. Ce qui est, au final, un des gros thèmes de la Légende des Cinq Anneaux, c'est la loyauté. À qui est-ce que tu dois le plus de loyauté? Ce qui est une question légitime dans ce jeu. Et dans Houses of the Blooded, c'est très similaire. J'appartiens à une maison, mais j'ai des amis. Envers qui est-ce que je suis loyal? Mes amis, ma famille, ma maison. Ok, je voudrais changer un peu, évoluer, changer de sujet. Donc je vais parler à la fin du mois dans une conférence à d'autres gens qui bossent en marketing, en publicité. Ma question, en fait, sur laquelle je suis en train de travailler, qu'est-ce que la stratégie, la stratégie de communication, le planning stratégique peut apprendre des jeux sur table? Est-ce que tu as des idées? Est-ce que tu veux que j'écrive ton discours? Non, ben non, pas du tout. Mais qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de leçon principale? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit, en fait, hein, qui puisse venir? Oui. Surtout le gros truc des jeux de rôle, des jeux de plateau coopératifs qui est sorti. La trahison sur la maison sur la colline, hein, c'est un jeu coopératif jusqu'à ce qu'il y ait une personne qui soit révélée comme être ou pandémique. Ou des jeux comme Zombicide. Oui, Zombicide. Dead of Winter. J'adore Dead of Winter. Et c'est du jeu coopératif. Ça t'apprend à communiquer, ça t'apprend à travailler ensemble, ça t'apprend à résoudre des problèmes ensemble, ça t'apprendra à trouver des solutions pour des trucs impossibles ou qui ont l'air improbables. Toutes ces choses-là, quoi.
Cooperative board games are incredibly useful for all of those things, all of those skills.
Oh, ça c'est une idée sur laquelle je me concentrerai, quoi.
And that's what I would, focus on is the idea that
la collaboration dans le jeu de plateau, donc ce qui apprend des choses différentes. Il y a d'autres jeux qui apprennent des trucs différents.
Of other things, which teach different skills.
Qui enseignent.
They teach how to be, and not only do they teach how to be, specifically, I think what the most important thing to take away from board games is sportsmanship.
Enfin bon, je pense qu'un des trucs les plus importants dans le jeu de plateau, c'est l'esprit de jeu. Mais bon, ça c'est pas dans le jeu, hein, l'esprit de fairness, quoi, de faire, d'équilibre, de justesse, de juste.
And Jim is a jerk. All the time. So eventually you just stop
and si on joue dans un jeu et que dans le groupe, Jim c'est un con, on joue plus, quoi, avec lui. Et ça c'est une compétence, en fait, hein. C'est un truc à apprendre, hein, d'ailleurs, de gérer et comment apprendre et comment apprendre à parler à Jim pour lui dire, écoute, t'es en train d'être con et on a besoin que t'arrêtes d'être con. Ou de lui dire carrément, écoute, tu viens plus jouer avec nous. Cette petite scène est une compétence. Il y a plein de gens qui ne réalisent pas. Ça s'apprend. Ça s'apprend à faire bien, ça s'apprend à faire correctement. Il y a plein de manières différentes de le faire. Il y a une manière qui peut être productive, que Jim change son comportement et joue encore, ou il y en a une autre qui s'appelle, Jim ne veut plus jamais jouer, je ne lui parle plus jamais. La plupart de ces trucs-là ne sont pas explicites dans le jeu, mais il y a des comportements que les jeux encouragent, et c'est ce genre de compétences que les jeux encouragent, je pense. Ouais, c'est très intéressant. Je suis en train de jeter des pièces à mon chat. Non, mon chat me ramène des pièces. Ouais, elle ramène des pièces. Attends, je vais te montrer. Par audio. Tu vois, elle est dans le coin. Tu vois, en vidéo, tu as le chat dans le coin. Elle arrive. Elle est en train de me ramener ma pièce. Ouais, attends, écoute. Non, attends, on va voir. Bon, c'est pas grave. Ouais, tu vois, voilà la pièce. Hop, la pièce. Le penny. Ramène le penny. C'est Lynn, c'est le chat le plus en demande du monde. Elle est aussi très intelligente. Enfin, une autre question que j'avais, c'est blog post que tu parles et tu dis que tu ne peux pas designer un jeu pour le marketing. Comme la citation de Ford, que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, si on leur demandait, ils nous diraient qu'ils voudraient un cheval plus rapide. Donc, et si de manière générale, si tu leur donnes exactement ce qu'ils demandent, ils demandent le peser. Et tu sais, quand on demande à Google, ça te propose des trucs. Et j'ai dit, qu'est-ce que veulent les gens? Les gens veulent mon pouvoir. Alors, donc, si les gens veulent mon pouvoir, qu'est-ce que tu designerais comme opposé de ça pour comme jeu? Donc, l'opposé de les gens veulent mon pouvoir, oui. Un jeu genre 1984, George Orwell, où les gens n'ont pas de pouvoir. Je pense que c'est la partie vraiment, vraiment sinistre de 1984. Et de V pour Vendetta, d'ailleurs, qui était complètement perdu dans le film, malheureusement. C'est que les gens l'ont laissé arriver, quoi, au final. C'était dans un séminaire de formation de design de jeu. Il m'a dit qu'il y avait une personne qui m'avait dit qu'il voulait designer un jeu très similaire à 1984. Et j'ai dit, ok, tu joues quoi là-dedans? Tu joues les rebelles et tu veux te battre contre le truc. Je dis, non, tu devrais jouer Big Brother dans ce jeu. Ça, c'est vraiment le jeu de rôle que tu veux faire, quoi. Tu veux que le jeu soit à propos de contrôler les gens, parce que les gens veulent être contrôlés. Il y a une partie de notre tête qui veut qu'on leur dise comment faire les choses, quoi faire. Et quoi penser. C'est plus facile. Alors, on a développé des cultures qui sont obsédées par le luxe. On veut qu'on nous dise quoi dire, quoi faire, quoi penser. Un des rituels magiques dans un livre. Le journal sort et nous dit quoi penser, pour qui voter et pour qui penser quand on se masturbe. Et ça, c'est tellement vrai, tellement vrai. Et ça, c'est une partie de la vie moderne. Un jeu où on est comme ça. Un jeu, pourquoi pas, créer un jeu où on fait ça, quoi. Voilà. Moi, je pense que ça, ce serait très intéressant comme jeu. Je l'ai en tête depuis un petit moment, donc c'est aussi vraiment, vraiment cynique comme jeu, par contre. Et puis, je suis plutôt en train d'essayer de m'éloigner du cynisme, d'être plus optimiste, quoi, parce que bon, c'est un des trucs que j'aime beaucoup sur 7C. Ouais, c'est un jeu optimiste, quoi, de manière générale. J'ai arrêté de faire des résolutions de nouvelle année. J'ai des engagements, quoi, des phrases, des proverbes, quoi, quelque part. Et mon dernier, c'était « On est tous dans le même bain ». Voilà, c'est juste pour me rappeler. Le dernier que j'ai utilisé aussi, c'est « Qu'est-ce que tu fais pour aider ?» Et je me pose la question, quoi, ou je me le rappelle. Comment est-ce que c'est en train d'aider les gens, ce que je fais? Les gens qui me disaient, le sens de la vie, c'est pas d'aider les gens. Écoute, je peux te parler, quoi. Voilà. Celui de mon frère, c'est travaille dur et sois gentil avec les gens. Ouais, c'est un bon truc, c'est pas mal, ça. Et d'année en année, je les rajoute. J'ai une liste qui se rajoute. Et quand tu as, ouais, quand tu as de la maîtrise de un, tu peux en rajouter un autre. Ouais, d'accord. Ouais, bon, on avance. J'aimerais bien parler de Kickstarter un peu, parce que tu en as parlé. Et le financement participatif a vraiment changé l'industrie des jeux. Et donc, c'est en train de grandir énormément, hein, le financement participatif. Donc, il y a des millions et des millions qui sont en train de grandir en termes d'industrie du jeu au total, hein, pas que le jeu de rôle. Il y a des jeux de plateau, il y a de plus en plus de gens qui participent et qui jouent aux jeux de plateau, il y a des bars à jeux de plateau qui s'ouvrent. Et toi, tu utilises Kickstarter aussi, donc il y a beaucoup de créateurs, designers de jeux de rôle qui l'utilisent. Où est-ce que tu penses que ça va? Est-ce que tu penses que c'est un modèle qui fonctionne? Oui, absolument. Ah ouais, carrément. Et c'est du patronat, quoi. C'est les patrons d'artistes, quoi. C'est une vieille idée qui date d'il y a longtemps. Donc, c'est des gens comme moi qui peuvent faire ce genre de choses dans la conversation qu'on est en train d'avoir. Je suis un gros fan de South Park, mais je pense qu'ils se sont vraiment trompés quand ils ont fait leurs épisodes sur Kickstarter. C'est juste de faire le quémander pour de l'argent pour faire rien. Mais non, et moi je bosse dur, je t'emmerde. Sans déconner, je bosse dur. Quand on m'a présenté cette idée-là, au début je me disais, ouais, je sais pas, on dirait que c'est faire un peu la mendiant. Et Mark Truman, qui s'occupe de tout ce qui est finance pour moi, de mon business, c'est lui qui m'a convaincu de faire du financement participatif. Et c'est un gros succès. Parce que j'ai un mec qui s'appelle Mark Diaz Truman, qui a un diplôme d'économie. Moi j'ai mon diplôme de philo. Hein. La philo, ça m'est pas très utile dans ce domaine-là. Et c'est lui qui s'occupe de tout ça. C'est lui qui me montre. Il montre des chiffres sur un fichier Excel. Il me dit, ouais, bon, si on fait ça. Je fais, bon, bah, ok, vas-y. Hein. Ok, moi je vais aller écrire sur les elfes. Hein. Voilà. Bah heureusement, t'as un mec qui s'occupe de tes finances. Ouais. Un truc qui me manquait, j'en parlais avec Julien. J'ai participé sur plusieurs projets, enfin Wilderness en particulier pour Houses. Mais il y a un bouton qui me manque sur Kickstarter pour suivre tes créateurs favoris. Parce que bon, il y a tellement de trucs tout le temps, je suis pas en train de suivre tous les projets, quoi. Donc je suis pas au courant. Je pense que ce serait bien qu'on rajoute sur Kickstarter pour suivre mes créateurs de projets favoris. Oui, je suis d'accord. C'est une très bonne suggestion. Ouais, je vais les contacter, en fait. Oui, je veux un bouton pour me suivre. Oui, c'est ça, ouais, c'est juste un bouton pour qu'on te suive. Ouais. Est-ce que tu crois qu'il y a des choses qui changent dans le monde du jeu de rôle récemment ou dans les années qui viennent? Qu'on voit des éléments de jeu de rôle dans d'autres styles de jeu ou... Je sais que c'est une grande question, hein, pour voir un peu tes opinions, tes pensées. Je pense que les jeux de rôle changent tout le temps. Hein. D'ailleurs, si tu regardes Donjons & Dragons 5e édition, qui est ma préférée, hein, d'ailleurs, qui est mon édition préférée, pour moi, c'est un jeu indé, quoi. C'est un jeu indé. On dirait Dungeon World. Il y a ce truc où t'as des points d'expérience si tu joues comme ton personnage. Il y a plein de trucs dedans. Si les jeux principaux la marque, quoi, que peut changer tant que ça, et ça a beaucoup, beaucoup changé. Hein. Il y a vraiment beaucoup de changements entre la 4e et la 5e, entre la 3e et la 5e édition de Donjons & Dragons, d'ailleurs. Ils ont toujours les mêmes trucs fondamentaux, hein, si tu veux, de base, quoi. Mais ils sont très différents en même temps. Il y a de l'innovation en jeu de rôle tout le temps. Et qui est très bien, heureusement, hein, il en faut. Sinon, on serait tous en train d'écrire des suppléments de Donjons & Dragons, quoi. Donc je pense qu'il y a de l'innovation tout le temps. Julien, est-ce qu'il y avait d'autres questions que tu voulais rajouter? Oui, j'ai une question. Ouais. John, tes jeux, ils sont porno ou de l'art? Il y en a qui sont les deux, hein, j'avoue, j'espère. J'essaye très, très dur. Je suis un gros fan de Liberture subversive. J'adore Chuck Palahniuk, j'adore Hunter S. Thompson, j'adore la poésie beat, les beatniks. Harlan Nelson. Et j'essaye à chaque fois que tous mes jeux au moins un élément subversif. Le jeu qui arrive le plus proche de la pornographie, je pense, c'est Wicked Fantasy, qui était un supplément pour Pathfinder. Et je l'ai fait spécifiquement parce que je voulais écrire un jeu au sujet du racisme. Et Wicked Fantasy, c'est ça, c'est un jeu sur le racisme. Et je l'ai fait sous couvert d'un supplément Pathfinder. Donc si tu lis Wicked Fantasy, c'est il y a des elfes, des nains, il y a des halflings, il y a plein de trucs. Mais il y a aussi plein de problèmes réels dans ce monde. Et ils sont tous basés sur le fait que les races ne se font pas confiance. Parce que, bah, racisme. Donc ça, c'est un jeu qui est probablement venu le plus proche du porno. Enfin, j'ai fait un autre jeu qui s'appelle Sexcraft. C'est un jeu de 10 pages, un petit truc. C'est un jeu méta, hein. C'est même pas un jeu exactement. Tu peux le jouer en tant que jeu de rôle, mais tu peux jouer par-dessus un autre jeu de rôle, en fait. Donc l'idée, c'est d'utiliser ce système de magie, de le mettre par-dessus ton jeu de rôle préféré. Et le jeu... Et si le sexe était la résolution de la mécanique de résolution plutôt que la violence? Mais ça, c'est Sexcraft. Je l'ai étendu à un jeu qui s'appelle Galaxy Space XXX. Donc c'est un jeu space opéra où une de tes stats, c'est sexe, si t'es fort en sexe. Donc tu peux t'en servir pour résoudre des problèmes. Donc, il n'y a pas de moyen de résoudre les choses par la violence dans le jeu, mais tu résous les choses par le sexe. Ça devrait sortir l'année prochaine, en principe, ce jeu-là. Enfin, donc, oui, j'ai fait un jeu porno qui est de l'art, en fait. Enfin, j'espère. Quelque part, peut-être. Dernier round, quelques questions supplémentaires. Le podcast est aussi autour de tous mes intérêts. Donc, ça s'appelle Ice Cream pour tout le monde. Donc, est-ce que tu aimes la glace? Oui. J'adore la glace. Oui, menthe chocolat. Glace à la menthe avec chocolat. Le Ben & Jerry's, c'est mon préféré. Mint chocolate chunk. Qui est divin. Super bon. J'adore ça. Et la bière. Ah, je suis pas un grand fan de bière. C'est un goût de bière. Ok. D'accord. Et voilà, j'aurais dû être en train de manger ça pendant la conversation, en fait. Attends, tu veux dire pour les gens qui n'ont pas la vidéo? C'est une glace à l'italienne, Tolenti. La menthe méditerranéenne. Ah. C'est la menthe supérieure comparée aux autres menthes. Oui, oui. Absolument. Et le voyage. Une expérience de voyage, ton voyage préféré. J'ai été en Irlande une fois. J'ai de la famille irlandaise. Et j'ai été en Irlande. Et tout le monde m'a traité comme un cousin. Même des gens qui ne me connaissaient pas. Et ils étaient tellement amicaux, tellement sympas. Et j'ai de la famille de County Cork. Et il y a une convention, il y a à peu près 200 personnes, donc pas très grande, une petite convention. Et une douzaine de personnes qui étaient venues de County Cork, qui étaient venues juste parce qu'ils avaient appris qu'ils avaient de la famille. Ils ont appris qu'ils avaient de la famille, que j'avais de la famille là-bas, ils sont venus. Il vient pour dire bienvenue en Irlande, blabla. Et je me suis vraiment bien amusé à la convention, et tard le soir après, je me suis bien amusé. Bon, il y a plein de choses que je peux pas parler, hein, mais bon, j'ai pissé sur une église.
Oui.
Bon, je vais raconter cette histoire-là. Donc, on retournait à mon B&B, mon bed and breakfast, mon hôtel, et je me souviens plus. J'étais tellement bourré, je traînais là toute la soirée avec les Irlandais. Ouais, bon, c'est cliché, mais oui, ils boivent. Oui, j'étais tellement bourré avec les Irlandais. Bon, donc, on m'avait dit que la manière de boire le whisky, c'est qu'il fallait y mettre le feu, éteindre le feu avec un sous-boc, renifler les vapeurs et ensuite le boire. Donc, moi, d'habitude, je bois pas, hein, ok? Donc, je bois peut-être un verre à mon anniversaire, quoi, en général, tu vois, je bois de l'hydromel, j'aime bien l'hydromel. J'aime beaucoup l'hydromel. Bon, enfin bon. Et tout d'un coup, je peux plus sentir ma langue. Le bébé vient derrière ma langue. Et et le mec irlandais dit, ah oui, ça c'est l'absinthe que j'ai mis dedans. Je dis quoi, mais t'as mis de l'absinthe là-dedans? Ah ouais, c'était de l'absinthe en fait. Il y a toute cette bande là, je suis avec cette bande. On cherche mon hôtel, on est perdu. Et même les chauffeurs de taxi savent pas où c'est. Enfin bon. Tout d'un coup, il faut vraiment, 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 vraiment que je pisse. Je n'en peux plus. Il faut absolument que je pisse. Mon abdomen est en train de me cramer. Enfin, il faut que je pisse. Je me tourne vers mon pote et je dis, putain, faut que je me pisse. Ah bah tiens, on va se jeter par-dessus ce bâtiment là. Il est 3h du matin, tout est fermé, voire la nuit. Et on se met dans une ruelle, on fait ça. Et tout d'un coup, je réalise que je suis en train de pisser sur une église. Je lui dis, putain, on est en train de pisser sur une église. Il dit, ouais. Et puis j'ai crié, on est en Irlande, je suis en Irlande. C'est marrant, toutes les histoires de voyage qu'on a. Moi, j'adore voyager et visiter de nouveaux endroits, et souvent les histoires qui nous restent et qu'on a, la plupart du temps, sont autour des gens qu'on a rencontrés et les expériences qu'on a là-bas, quoi. J'ai jamais été en France, par contre. Bah écoute, il y a beaucoup de gens qui te souhaiteraient la bienvenue, à mon avis. Il y a beaucoup de gens qui aiment tes jeux, donc... il faudrait que j'arrive à venir en France. Et on fait la 7e mer. D'ailleurs, c'est quoi le timeline sur 7C? Je voudrais vraiment, vraiment... Le Director Scott, le nouveau jeu... qui soit sorti pour Gen Con l'année prochaine, donc juin. Je voudrais que le Kickstarter commence en janvier. On va voir ce qui se passe. J'ai un pote ici qui est français. Sa famille est française. Et il a appris à parler en anglais avec le jeu Légende des 5 Anneaux. Son nom est Fabien. Je connaissais quelqu'un par là-bas en Phoenix. Fabien est génial, j'adore. Quand on a fait 7C, j'étais très, très... Je faisais très attention à essayer de... Bon, je sais qu'on a fait des erreurs. Casti, d'ailleurs, on a fait vraiment des grosses erreurs pour moi. Mais... Il y a tout un truc à la con en Amérique, anti-français, qui est bon, débile, enfin, bon. Moi, je voulais vraiment qu'on réussisse à faire la France correctement, pour 7C, dans l'esprit, quoi. Quand je fais des trucs, quand je bosse sur la conception, j'en parle à Fabien, mon pote Fabien, et je dis, est-ce que c'est bien, ça marche? Il me dit, ouais, mais ça marche pas trop bien, ça marche... Ok, très bien. Bon, je lui posais la question. Parce que je suis très fier d'être américain. Hein. Je sais qu'il y a des conneries, des trucs nuls qu'on a fait. Mais il y a aussi des trucs géniaux des États-Unis. Et il faut embrasser tout, quoi. Donc voilà, c'est chez moi. Oui, on a fait des trucs de merde. Désolé. Je ne suis pas exceptionnel dans les Américains. Mais on a aussi fait des trucs géniaux, quoi. Comme tu parlais de voyage. Et c'est quand tu rencontres les gens d'un pays, quand tu voyages, que ça c'est vraiment précieux. Et quand tu voyages aux États-Unis, quand tu voyages en Amérique, c'est comme si on était presque 5 pays, et même plus que 5 en fait. J'en parlais avec un pote. Xavier, j'en parlais avec Xavier en fait d'ailleurs, avec qui on fait le podcast Altaride. Il disait que dans son expérience, que l'Europe, même si on a des langues différentes, en surface ça paraît très différent, quand tu es dedans et que tu te balades, il y a vraiment une culture qui est très similaire au final, quelque part. Alors que les États-Unis, de loin, pour nous, on dirait qu'on connaît tout parce qu'on a toute la référence de films, etc. Mais quand tu te balades d'un État à un autre aux États-Unis, tu réalises qu'il y a vraiment des grosses différences culturelles d'une région et d'un État à un autre, quoi. Donc peut-être même plus que 5, c'est un grand territoire aussi. Ouais, je mange de la glace en même temps. Ouais, je suis sorti avec une nana une fois qui était à Boston. Et sa grand-mère est venue, qui venait de Boston, elle est venue en Californie, et elle disait... je sais pas le traduire, c'est un truc d'accent. C'est une blague avec un accent. Il n'arrivait pas à comprendre ce que Dan disait la grand-mère de Boston. Law and order. Law and order. Law and order. Je sais pas. Bon, c'est le gros bordel aux États-Unis. Je voudrais vraiment, vraiment, vraiment qu'il y ait quelqu'un qui est un Français qui lise Seven Seas et puis un Français, un Italien, un Espagnol et qui me dise, oui, il y a des caricatures. C'est de la caricature, hein, mais il y a quand même l'essence de tout ce qui est génial de chacun des pays. Et ça, je veux vraiment que ce soit dedans. Et pour la France, un des gros trucs qu'on a essayé de faire, qu'on va essayer vraiment en plus dans la nouvelle édition, c'est capturer cet esprit, ce sens de camaraderie, de... cette fierté nationale. Je sais que la fierté peut avoir des connotations négatives, mais c'est pas ça que je veux dire. Hein. C'est vraiment une fierté nationale, la fierté nationale de la France, qui est facile à capturer et quelque chose qui est vraiment remarquable et chouette, vraiment un truc bien, quoi. Voilà. Il y a un avantage que seules les montagnes peuvent avoir, montagnes qui s'appelle camaraderie. Et on l'a appelé de la manière à la manière française. Donc tu peux avoir des bonus de dés pour ça dans l'édition. Mais si t'es de montagne, probablement j'ai mal prononcé montagne, ouais. Si tu viens de, si t'es montaginois, tu peux choisir un nombre de camarades, donc probablement les autres joueurs. Quand tu dépenses un dé d'héroïsme qui les aide eux, tu as autant de dés que tu as de camarades. Parce que ça a l'air correct, quoi. Et c'est les trois mousquetaires. Oui, ce qui est le meilleur livre jamais écrit. Oui. J'adore Dumas. J'ai lu tous ses bouquins, même les mauvais. Et je les adore tous. Ils sont tellement géniaux. One of the goals for 7C was, would this happen in a Dumas novel? Yeah. Would this be in a Dumas novel? Un des buts pour 7C, est-ce que ça aurait lieu dans un roman Dumas? Est-ce que ça pourrait être un roman Dumas? Et si la réponse était non, ça n'allait pas dans le jeu. Un des autres éléments, c'est, on parle beaucoup, mais... Dans la première édition de 7C, toute la sorcellerie, c'était, il faut que tu te concentres, tu peux rien faire d'autre. Et je parlais avec Mike Curry, qui est un des designers sur le projet, Et j'ai posé cette question qui était, est-ce que je pourrais utiliser Portée pendant un combat d'épée? Donc Portée, c'est la magie où tu déchires des trous sanglants dans la réalité et tu chopes des trucs. Donc dans le jeu de base, il fallait se concentrer, tu pourrais rien faire d'autre.
Bon.
Est-ce qu'on pourrait faire Portée pendant un combat à l'épée? Mike a dit, est-ce que Errol Flynn pourrait le faire? Oui. Bon, bah oui, alors. Moi, je l'ai fait dans des jeux, hein, en termes d'action dramatique. Oui. Est-ce que tu peux utiliser la magie pendant un duel, pendant que tu combats? Je pense que oui. Bien sûr que oui. Pourquoi est-ce que tu pourrais pas le faire? Et cette petite question a changé toute la manière de regarder la sorcellerie. Donc, est-ce que ça arriverait dans un roman de Dumas? Oui, bon, ben, ça va dans le jeu. Donc voilà, ça c'était l'outil de mesure. Ok, bon. Ben, je pense qu'on arrive à la fin de cet entretien. Merci beaucoup, John. Ça a été vraiment un plaisir. C'était fascinant de parler avec toi de jeux de rôle, tout ce que tu penses au niveau de la conception de jeu, raconter des histoires, ça a été un plaisir, vraiment, merci. Ouais, c'était fun. Bon, on va regarder le Kickstarter pour 7C, j'ai hâte de voir ce qui va sortir. Est-ce que c'est... On allait faire Galaxy et Triple X, mais bon, maintenant 7C vient d'arriver, donc j'ai pas envie de retarder de Galaxy Triple X de trop, mais bon. Notre artiste a eu un souci aussi. On va avoir un artiste pour faire tout l'art, mais il ne pouvait faire que la couverture. Donc du coup, on voudrait que tu fasses tout, je peux pas. Enfin, et ensuite, 7C est arrivé, donc du coup, tout a changé. Voilà. Ok. Regardez tout ça, donc j'espère, donc début 2016, quoi. Ok. Ah, très bien, merci.
Thank you for being there.
Bah écoute, à la prochaine. Ciao.